Les péchés capiteux, c'est le titre du livre que nous propose notre invitée Christine Arcambourg.
C'est son enfance racontée en deux temps qui compose cet ouvrage, son enfance dans la maison familiale, puis ses années d'internat.
Avec nous ce matin, Christine Arcambourg, docteur en lettres et anciennement professeure de littérature française et romande à l'Université de Berne. Bonjour.
Bonjour.
Tout d'abord, Christine Arcambourg, pouvez-vous nous expliquer le titre de votre livre, Péchés capiteux ?
Oui, tout à fait. Bon, j'ai été élevée, comme je l'écris, je crois, enfin, dans la religion catholique. Et là, il y a deux sortes de péchés. Il y a les péchés véniels qui sont, dans le fond, des péchés légers, des petits péchés. Et puis, il y a les péchés capitaux qui sont des péchés plus importants. Les péchés capitaux, évidemment, ça n'existe pas. C'est un titre que j'ai inventé, je pense, et qui m'a semblé tout à fait naturel. J'explique dans le livre que l'interdit me fascine. Je vivais dans une famille, disons, très conventionnelle, avec des interdits. Et puis moi, c'est mon tempérament probablement, l'interdit m'a toujours fascinée. Et donc, j'ai essayé de contrer tous ces principes, tous ces interdits qu'on mettait. Et de là vient cette histoire des pâtisseries, de la pâtisserie que j'accumule, que je vais manger tous les matins, que je vais acheter, parce que nous avions une cuisinière. Donc, c'était vraiment quelque chose d'interdit. On n'allait jamais dans une pâtisserie. Voilà. En fait, ce terme de capiteux, ben, vous le savez, on l'emploie généralement pour le vin ou bien pour un parfum, pour signifier dans le fond l'espèce de d'excitation que l'on ressent quand on boit ce vin, quand on sent ce parfum. C'était un peu du même ordre.
Vous voyez, l'interdit.
L'interdit me permettait, quand j'allais à la pâtisserie acheter un gâteau tous les matins, eh bien, je commettais, je ressentais cette espèce d'excitation. Voilà.
Donc, l'interdit, c'était quelque chose d'enivrant.
Tout à fait. Non, mais de contrer l'interdit. Hein. L'interdit me fascine, oui. Et puis là, je vais contre et je commets un péché capiteux quand je vais contre cet interdit, vous voyez, quand je vais à la pâtisserie, puisque nous avions une cuisinière. Alors, on n'allait jamais à la pâtisserie. On ne vivait pas comme tout le monde. Pour moi, c'était terrible.
Voilà. Et écrire un livre sur votre enfant, sur vos jeunes années, pourquoi vous l'avez fait ?
Pourquoi je l'ai fait ? Écoutez, la première partie, c'est venu très simplement. J'ai un mari valaisan, nous allions toujours en Valais, en été comme en hiver, et je n'aime pas les montagnes, disons les choses simplement. Je n'aime pas les montagnes, je viens du plat pays, j'ai l'habitude des horizons sans fin. Le plat pays, la mer. Et puis les montagnes, ça m'angoisse. Franchement, ça m'angoisse, ça m'oppresse. Je me sens enfermée dans les montagnes. Et je pense qu'un jour, je me suis, après m'être baignée, je me suis assise le dos aux montagnes, hein, et puis j'ai commencé à écrire cette histoire. Et voilà, c'est venu comme ça. Et c'était pendant les vacances, donc c'est venu, ça a été la première partie. Vous voyez, j'avais le temps, j'ai écrit toute cette première partie en vacances, voilà.
Et votre livre est composé justement de deux périodes. Il y a votre enfance,
oui.
Et puis vos 10 ans dans votre famille à Fruges. Parlez-nous un peu de cette période-là.
Bah, justement, bon, c'était, j'en parle, nous vivons entourés, comme je dis, nous vivons entourés de domestiques, nous vivons dans une grande propriété, entourés de domestiques, ma mère n'est pas très maternelle déjà, élevée plus ou moins par les domestiques. Alors, il y a une cuisinière, Julia, qui est un personnage très important. Il y a le jardinier, Eugène, qui est toujours là, qui a été... Ils sont très importants, tous les deux, parce qu'ils sont les plus anciens des domestiques. Ils ont déjà servi chez mes grands-parents paternels et ils font, en quelque sorte, pratiquement partie de la famille. Ils nous adorent, nous, les enfants, je dis, hein, nous, les enfants. Ça, c'est très spécial. Par contre, il y a une espèce de lutte sourde entre la cuisinière, Julia, et ma mère. Parce que Julia ne me parle pas beaucoup. Hein. Je la décris longuement dans mon livre. C'est un personnage. Je le dis d'ailleurs en mettant ce terme entre guillemets. C'est un personnage, Julia. Elle fait de la résistance passive, si je puis dire, à ma mère, qu'elle considère comme une étrangère. D'une part parce que ma mère est parisienne, donc pas de chez nous. Et ensuite parce qu'elle n'est pas forcément, elle n'est pas une Arcambourg, hein, elle est devenue par alliance.
Une pièce rapportée.
Donc ça fait, ouais, tout à fait, exactement, comme on dit dans les mariages. Donc ça fait beaucoup pour Julia. Hein. Julia, en plus, elle a été obligée de quitter le service de ma grand-mère parce que mon père a épousé cette parisienne. Et ma grand-mère a jugé que vraiment les capacités de cuisinière de ma mère étaient bien inférieures à sa beauté, donc elle a eu peur, je ne sais pas, que mon père meure de faim, j'en sais rien. En tous les cas, Julia a dû passer à notre service à cause de ma mère. Il y a aussi ça, vous voyez. Donc alors ça se traduit par des choses drôles. Par exemple, quand nous avons des invités, ce qui arrive de temps en temps, même assez souvent, ma mère vient et puis donne un désordre à Julia pour le repas. Et systématiquement, nous voyons toujours arriver autre chose que ce que ma mère a commandé.
La résistance passive.
Oui, tout à fait. Alors ça, c'était drôle parce que ma mère, évidemment, ne dit rien à Julia parce que Julia est un personnage plus important qu'elle, finalement. Mais nous savons, les enfants, alors ça nous fait rire. Enfin, en tous les cas, moi j'adore ça. J'adore parce que ça met un peu d'animation, si vous voulez, dans la famille. Alors voilà, Julia, c'était un personnage comme ça. Mais elle nous adorait. Alors par exemple, il y a, je raconte ça dans le livre, le jour de la Chandeleur, elle nous fait chez elle parce que mon père avait pensé que ça serait bien qu'on leur donne une petite maison pas très loin de chez nous, alors qu'avant ils habitaient chez mes grands-parents. Là, ils sont quand même chez eux. Mais alors, on l'appelle la petite maison et nous y allons tout le temps, les enfants. On y va pour un oui, pour un non. Et puis surtout, Eugène et Julia vivent pratiquement en permanence toute la journée chez nous. Hein. Eugène tout le temps, je dirais. Et puis Julia vient pour le repas de midi, vient pour le repas du soir. Et elle est là entre deux. Je dirais, ils sont toujours là. Et Julia, par contre, elle fait quelque chose de spécial, c'est-à-dire que le jour de la Chandeleur, elle nous fait ce qu'on appelait un petit peu avec, une certaine solennité, la séance de crêpes. Donc, elle fait pour les enfants la séance de crêpes. Et ça donne lieu à quelque chose que je raconte, que je ne vais pas pouvoir lire ce soir. C'est l'histoire des cabinets, parce que je ne vais pas pouvoir raconter. C'est malheureux, parce que ça fait rire tout le monde, mais je pourrais pas tout raconter genre, ce soir, parce que, évidemment, on était... Non, je ne peux pas vous raconter ça.
Jamais 203, format A3.
Nous sommes de retour avec notre invitée Christine Arcambourg,
qui nous fait découvrir son passionnant livre Les péchés capiteux.
Christine Arcambourg, vous avez expliqué la première partie du livre, donc votre enfance dans la maison familiale. Puis vous faites une bêtise qui vous amène en deuxième partie de livre, en internat, plutôt que prévu. Donc c'est ces années-là que vous décrivez. Pourquoi est-ce que vous avez voulu séparer ces deux périodes?
En fait, ça mime exactement ce qui s'est passé dans la vie. Il y a eu une véritable rupture quand j'ai été mise en internat, plus vite que prévu, parce que je ne m'attendais absolument pas à cette sanction-là. Mon père m'avait dit, finalement, il s'en était remis à la justice divine, tu iras voir M. Loyen, et puis M. Loyen m'avait donné 3 paters et 2 Ave Maria, et puis c'était fini, j'avais fini, j'étais pardonnée, pour moi c'était terminé. Et puis, ensuite, ma mère qui était très à cheval sur tout, et puis je pense qu'elle craignait que je fasse encore d'autres bêtises, elle me connaissait un peu. Alors, elle a décidé que j'irais au pensionnat à l'entrée plutôt prévu. Et je me suis retrouvée d'un coup, finalement, dans un lieu totalement différent de ce dont j'avais l'habitude, dans une sorte de prison, finalement, vous voyez. Donc là, il y a eu une rupture dans ma vie, et il y a le premier chapitre de cette suite de chapitres qui décrit l'internat est particulièrement sombre, parce que ça correspond à l'état d'esprit que j'avais quand on m'a mise en cet internat. J'y comprenais rien. J'avais plus rien à quoi ni à qui me raccrocher. Et je pleurais toutes les larmes de mon corps. Et puis il y a une sœur qui était là de son haut. Elle était peut-être pas si grande que ça, mais moi je la voyais grande parce que j'étais petite. J'avais 10 ans et demi. Elle me dit d'un ton glacial, elle me dit, mais pourquoi pleurez-vous? Vous avez l'âge de vous prendre en main, de vous prendre en main. Et c'est très curieux parce que ça a arrêté net mes pleurs, je dois dire. Et c'est curieux parce que cette phrase est restée gravée en mémoire, et qu'à chaque fois que j'ai un petit flou, comme ça, je commence à me dire, voilà, je vois pas grand-chose, etc. Je pense à ça, et je me dis, écoute, Christine, il est temps de reprendre en main, voyez.
Vous êtes Christine Arcambourg, d'une famille où vous étiez 5 frères et sœurs. Ouais. Est-ce que les frères et sœurs, ils ont lu le livre, et vous avez eu des échanges sur ce livre, et du coup, sur votre histoire familiale?
Alors écoutez, ma famille, elle s'est décimée. Nous sommes comme les 10 petits nègres d'Agatha Christie. On disparaît les uns après les autres. Et puis mon frère aîné, celui que j'appelle mon grand frère, qui était vraiment grand, il est mort à 50 ans, en laissant 4 enfants. Après, ma sœur aînée aussi. Ensuite, mon frère, celui que j'appelle mon petit frère et qui finalement avait un an de plus que moi, est mort il y a exactement 2 ans. Et là, franchement, ça a été terrible pour moi. Il était prêtre après avoir été moine, et puis c'était celui que j'aimais le plus. Donc ça a été grave pour moi. Et il reste donc, je suis la 4e de cette fratrie. Il reste encore une sœur qui habite à Haïti. Alors là, nous sommes loin l'une de l'autre. Voilà. Et puis c'est tout. Donc, finalement, il y a une espèce que quand j'y pense, finalement, c'est bien que j'ai écrit ça. Je l'ai pas fait pour ça, mais finalement, c'est bien que ces souvenirs soient couchés sur le papier, qu'ils aient été publiés, parce que vous savez, c'était franchement une enfance d'un autre siècle. Hein. C'est aussi ça. Alors, si ça n'était pas écrit, ça paraîtrait invraisemblable déjà. Alors, je pense, oui, c'est vrai. Alors, je pense aussi à mes petits-enfants. C'est dédié à mes petits-enfants. Ça n'a pas été écrit pour lui, mais pour eux, mais ça a été finalement publié pour eux. Parce que quand ils ont. Alors, pour Nastasia, j'écris pour Nastasia, Amanda, Dominique. Parce que quand mes petits-enfants atteignent l'âge de 10 ans, je les emmène toujours, chacun l'un après l'autre, donc à Paris. C'est une sorte de voyage initiatique. Ils ont beaucoup voyagé, ces enfants, mais Paris, ça leur reste. Parce que là, nous avons aussi le temps de parler. Et je me souviens très très bien que Nastasia m'a dit, quand elle m'interrogeait sur mon enfance, et je lui raconte qu'on avait une cuisinière, etc. Et puis elle est ahurie parce que elle a une mère qui d'abord a élevé ses enfants comme tout le monde, qui ils vivent dans une grande maison, ils invitent beaucoup de monde, et en plus de ça, elle a un travail avec de grandes responsabilités. Et elle manage tout ça très très bien. Donc elle me dit, Nastasia me dit, mais dans le fond, ta mère, qu'est-ce qu'elle faisait?